Je vais présenter ce qu'on a essayé de mettre dans ce livre que j'ai co-écrit, et je salue d'ailleurs mes co-auteurs Stéphane, Anne-Isabelle et Christophe, qui ne sont pas là aujourd'hui mais qui pensent à nous. En fait, parmi eux, il y en a deux qui sont dans d'autres rencontres, conférences ailleurs en France. Donc la preuve que la question de la décroissance et les sujets connexes interpellent aujourd'hui et suscitent toujours plus de débats. La décroissance crée une petite crise de croissance, qui est une contradiction parmi d'autres. À travers ce livre qui s'appelle « Un projet de décroissance », on a essayé de synthétiser, de résumer, de faire converger différentes idées, différents débats, différentes discussions, réflexions, expérimentations qu'on a pu observer ou auxquelles on a pu participer ces dernières années, depuis une dizaine d'années, à la fois au sein du mouvement de la décroissance en France, à l'étranger, et puis au sein de beaucoup d'autres mouvements. Et ce livre s'appelle « Un projet de décroissance », c'est ce que je vais présenter aujourd'hui. Et c'est important de commencer par là, c'est pas le projet de décroissance, ce serait une contradiction de parler du projet de décroissance, il n'y en a pas un seul et unique, mais il y en a plusieurs. Et nous, ce que nous avons essayé de faire, c'est de proposer des pistes. C'est pas un projet clé en main, c'est pas une vérité, c'est juste des pistes pour susciter du débat, pour discuter, c'est une base que l'on propose pour que l'on puisse se rencontrer et réfléchir ensemble. Alors, j'ai essayé de faire une présentation relativement courte, autour de 35-40 minutes, dans le but de laisser un maximum de temps après au débat, à la discussion. Et de toute manière, je suis encore là ce soir et demain matin, on pourra continuer de manière plus décentralisée à discuter plus tard pour celles et ceux qui le souhaitent. Alors, j'ai essayé de faire une présentation en trois temps. Dans un premier temps, je vais définir qu'est-ce qu'on entend par le terme barbare, provocateur de décroissance. Dans un deuxième temps, je vais évoquer ce que pourrait être un projet de décroissance et qu'est-ce que dans le mouvement de la décroissance on propose. Et dans un troisième temps, je vais proposer différentes étapes de transition, de transformation de la société à partir de ce projet de décroissance pour tendre d'une société de croissance dans laquelle nous sommes aujourd'hui vers de nouveaux modèles de société soutenables, désirables, conviviaux, autonomes, etc. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la décroissance? Est-ce que tout le monde m'entend bien d'abord avant de continuer? Alors en général, on donne trois grandes définitions en termes de décroissance. Le premier, on a eu l'occasion d'en discuter hier soir, c'est un slogan provocateur qui a été inventé comme tel par un ancien publicitaire reconverti qui s'appelle Vincent Chenet, qui est le fondateur du journal La Décroissance. Et qui, au début des années 2000, s'est rendu compte qu'on vivait dans une espèce de mythe de la croissance. Il s'est rendu compte, en écoutant les politiques dominants, en écoutant les médias dominants, les économistes, les intellectuels, les penseurs dominants, s'est rendu compte qu'il y avait une espèce de totem qui revenait tout le temps, à toutes les sauces, la croissance, la croissance, la croissance, la croissance. Mais jamais on définissait la croissance de quoi, pourquoi, comment, pour qui, quel sens derrière, etc. Et c'était un totem où, en permanence, on dit, ben, pour faire face à tous les problèmes que rencontre aujourd'hui notre société, que ce soit le chômage, les inégalités, le mal-être, les problèmes environnementaux, etc., etc., la réponse était toujours la croissance. Ça fait une vingtaine d'années que dans nos sociétés occidentales, on n'a plus de croissance, et que l'on espère ce retour de cette sacro-sainte croissance, sans vraiment comprendre ni pourquoi ni comment, et sans vraiment se poser la question, est-ce que le problème ne serait pas la croissance? Et en tant que publicitaire, il s'est dit, un terme qui pourrait susciter du débat, qui pourrait provoquer, qui pourrait amener à avoir un choc pour poser toutes ces questions qui ne sont pas posées, qui sont difficilement discutables, tant les croyances implicites dans les bienfaits de la croissance sont répandues dans notre société, et derrière aussi les croyances implicites dans le toujours plus vite, toujours plus loin, accumuler toujours plus, etc. Il s'est dit, le terme décroissance est un formidable outil. Alors c'est un outil qui a joué son rôle, qui continue à jouer son rôle, dans lequel moi je me suis retrouvé. C'est un outil qui a permis aux questions que l'on pose d'arriver sur la scène du débat politique, intellectuel, de société, en France et dans d'autres sociétés. Par contre, et là je rejoins ce que l'on discutait hier soir, c'est un terme qui est peu fédérateur. C'est un terme qui est plutôt, qui a vocation à être repoussoir, etc. C'est plus un terme qui est dans la déconstruction. Je continue à utiliser ce terme pour plusieurs raisons. La première, c'est que le débat qu'on a eu hier soir, on l'a depuis des années régulièrement au sein du mouvement de la décroissance. Et puis, quand on commence à faire du brainstorming, à discuter entre nous, dire ouais, on est d'accord que ce terme est efficace, mais est limité, puisque repoussoir, il véhicule en lui quelque chose de négatif, etc. On cherche un autre terme et on ne trouve pas. Et puis, on se dit finalement, ce terme, il a deux vertus, voire plus, mais deux principales. La première, c'est que il est très difficile de vider de son sens le terme décroissance. On vit dans des sociétés qui sont dominées par le marketing, la publicité, le mensonge, la communication. On le voit, on nous vend un peu tout et n'importe quoi, à la sauce écologique, à la sauce verte, à la sauce juste, à la sauce développement durable. On a pu voir comment les publicitaires se sont emparés des questions environnementales ces dernières années. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut aller faire un week-end en avion dans un hôtel climatisé, écologique, en Tunisie. On peut acheter un 4x4 développement durable, etc., etc. On pense que ce sera beaucoup plus difficile, beaucoup plus long, mais rien n'est impossible dans cette société cynique du mensonge et de la publicité. On pense que ce sera beaucoup plus difficile de nous vendre un 4x4 décroissant, de nous vendre un séjour dans un golf climatisé, dans une bulle magnifique, etc., décroissant. Mais rien n'est impossible. La deuxième vertu que l'on trouve à ce terme, malgré tous les défauts qu'il peut avoir, c'est que la décroissance, c'est aussi un chemin. Et je crois qu'ici, vous êtes tous individuellement, personnellement, traversés par ces chemins personnels où se décoloniser l'imaginaire, sortir de tous les conditionnements auxquels on a pu être confrontés depuis notre plus jeune âge, à travers la pression de la société, les médias, l'éducation, etc. C'est-à-dire ce conditionnement pour le toujours plus, pour cette croissance comme bienfait de la société, il faut toujours croître, grandir toujours plus, etc. Ben, on pense que tout ce chemin de décolonisation de l'imaginaire prend du temps. Et je l'ai vécu moi-même, c'est qu'au départ, quand j'ai entendu parler de décroissance pour la première fois, ben, j'ai eu un sentiment de rejet. J'ai dit, c'est quoi, c'est fou, qui parle de décroissance en période de récession. Et puis, ça m'a donné envie d'aller plus loin. Et ça prend du temps. Ça m'a donné envie d'aller lire des livres, aller à des conférences, rencontrer des gens qui se posaient les mêmes questions que moi, de discuter, puis de questionner aussi moi-même, de questionner un certain nombre de croyances, de questionner comment je peux me réapproprier le sens que je veux donner à ma vie, mon temps libre, comment je peux me libérer d'une pression sociale par rapport à une certaine situation sociale, au travail, à la consommation, au fait d'avoir, etc. Et je me suis rendu compte qu'à travers tout ce trajet, un trajet personnel mais collectif, puisque partagé avec d'autres personnes, c'est que petit à petit, ce terme qui au départ était ressenti comme quelque chose de négatif, quelque chose que je voulais repousser, que je ne comprenais pas, bah, prenait un sens plutôt positif. Et c'est un chemin, je crois, qui prend du temps et on ne peut pas faire des choses sans temps. Et la décroissance, c'est ça aussi, c'est une transformation de la société, c'est un changement de paradigme, et c'est quelque chose qui prend du temps, qui est un chemin individuel, collectif, politique, institutionnel, etc. Donc ça, c'est la première définition du terme décroissance, un slogan provocateur qui a pour objectif de susciter du débat, des réflexions, des remises en question pour se réapproprier le sens que l'on souhaite donner à nos vies. La deuxième définition que l'on donne au terme décroissance, c'est une pensée multidimensionnelle. Et je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui on vit dans des sociétés où les sciences, où les différentes perceptions ou analyses que les grilles de lecture qu'on peut avoir de la société, alors qu'on parle toujours de la même chose, ont été partitionnées. Ce qui fait qu'aujourd'hui un sociologue va parler de sociologie, un philosophe va parler de philosophie, un économiste va parler d'économie, un ingénieur comme moi va parler d'ingénierie, et ainsi de suite. Mais on n'est jamais capable de comprendre qu'en fait, on parle toutes et tous de la même chose. On parle de société humaine avec des êtres humains dans leur diversité, leur complexité, leur perception, leur spiritualité, leur compréhension du monde, leurs envies, leurs désirs, leurs frustrations, etc., etc. Et ce qu'on a essayé de faire avec la décroissance, c'est d'essayer de faire converger énormément de pensées issues de différents domaines académiques, de différentes approches, de différentes grilles de lecture, de différents outils. Ce qui fait que la décroissance, c'est un peu une matrice de réflexion qui, d'un côté, interpelle sur les limites physiques, culturelles, sociales, anthropologiques de cette société de croissance, de cette société du toujours plus, du développement, du progrès, du technoscientisme, de l'économicisme, je pourrais rajouter beaucoup de termes derrière, et d'essayer de faire converger, faire se connecter ces différentes grilles d'analyse, parce que je crois qu'il y a une richesse d'analyse, de critique, de déconstruction des mythes de la société dans laquelle on vit aujourd'hui, et de les faire converger pour faire sens. Et c'est une espèce de pensée radicale qui essaye de prendre les problèmes à la racine afin de bien identifier les problèmes, de bien les comprendre et de se proposer des solutions qui ont du sens, des solutions sur différents niveaux. Ainsi, on parle essentiellement des deux grandes lignes ou des deux grandes approches de la décroissance, à la fois les limites physiques de la croissance. Je suis au départ ingénieur de formation et je me suis intéressé premièrement à la décroissance avec cette approche-là où je me suis intéressé à toutes les questions environnementales, en particulier les questions énergétiques. C'est qu'on vit sur une planète qui s'appelle la Terre, qui a un certain nombre de ressources qui sont finies, un certain nombre de cycles écologiques qui ont des rythmes propres. Et si on va au-delà de ces limites, on se heurte à des murs. Et aujourd'hui, je crois qu'on court toujours plus vite droit dans le mur. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que plus je m'intéressais à ces questions-là, plus j'étais déprimé, plus je devenais un catastrophiste, un espèce de catastrophiste éclairé qui parlait de demain la catastrophe, aujourd'hui la catastrophe, et que à travers mes relations aussi bien avec ma famille, mes amis, mes collègues, les personnes que je rencontrais, ça ne suscitait pas beaucoup de débats, ça faisait peur, et ça renfermait plutôt les gens dans une forme de déni. Et je crois que la peur, ou la forme de catastrophisme éclairé, même s'il est important d'en avoir conscience, et je crois qu'il y a une grande partie de la population qui en a conscience, à part peut-être nos élites, je crois que le fait de ne parler que de ça est plutôt anxiogène dans les sociétés qui sont déjà extrêmement anxiogènes. Elle ne suscite pas du débat, elle ne suscite pas une réappropriation des problèmes pour être acteur, actrice des changements. Et en parallèle de ça, j'ai découvert à travers la décroissance une autre grande approche qui aujourd'hui m'interpelle beaucoup plus, qui aujourd'hui, je crois, est beaucoup plus au centre de la réflexion de la pensée de la décroissance, c'est ce qu'on pourrait appeler les limites culturelles, sociales, anthropologiques de la croissance. C'est que nous vivons dans des sociétés qui n'ont jamais été aussi riches matériellement, en termes de connaissances techniques, scientifiques, en termes de production, de consommation, de technologie, de complexité dans les institutions, etc. Et je crois qu'on a rarement été aussi pauvres, spirituellement, culturellement, humainement, en termes de relations humaines, en termes de joie de vivre. Et c'est quelque chose qui, moi, m'interpelle, d'autant plus que je vis aujourd'hui à Budapest, ici en Europe de l'Ouest, en Europe centrale, où il y a un niveau de développement économique qui est beaucoup moins fort. Et je crois qu'aussi, quand on fait le voyage dans d'autres sociétés qui n'ont pas encore expérimenté cette approche occidentale du développement, etc., on trouve beaucoup d'autres choses dans les rapports humains qui ont été détruits dans nos sociétés et qui créent ce mal-être que j'observe quand je rencontre mes anciens collègues ingénieurs à Paris qui bossent dans le complexe militaro-industriel ou qui produisent de l'obsolescence programmée pour l'automobile avec un stress au travail, une perte de sens, une perte de convivialité, avec tout ce qu'on peut voir, ces comportements de mal-être, de solitude, de suicide, de consommation d'antidépresseurs dans la société occidentale. Et puis, cette montée de la violence, des barbaries, l'incapacité de communiquer les uns avec les autres. Et je crois que nous vivons dans des sociétés où il y a une perte de sens, il y a une perte de repères, il y a une perte totale de l'humain, de qu'est-ce qu'on fait sur Terre. Et la décroissance n'est pas là pour apporter des réponses, mais est là pour réfléchir ensemble à comment construire des conditions politiques, sociales, humaines, qui permettent à toutes et à tous de se réapproprier ce qu'on appelle notre autonomie. Donc autonomie, ça fait référence à la pensée entre autres de Cornelius Castoriadis, et c'est en rupture par rapport à la réflexion d'hétéronomie. Je crois qu'on vit aujourd'hui dans des sociétés où on est plus dominé par les institutions, par l'économie, par le capitalisme, le néolibéralisme, les technologies que l'on consomme, dans lesquelles on est pris, etc., que des sociétés autonomes où on a un contrôle démocratique sur ces institutions, sur ces technologies, sur ces outils. Et la décroissance, c'est comment faire des chemins pour sortir de toutes ces toxicodépendances et toujours plus, et se réapproprier le sens que l'on souhaite donner à nos vies. Alors ça s'inscrit sur toute une pléiade de réflexions, de pensées. Je parle de l'autonomie de Cornelius Castoriadis pour plus de démocratie directe, pour pouvoir être capable de se réapproprier les institutions telles qu'on a envie de construire, d'avoir un choix autonome, citoyen, sur les règles que l'on souhaite se donner, individuellement et collectivement. C'est les réflexions autour de la convivialité. Et le penseur d'origine austro-hongroise, autrichienne, croate, Ivan Illich, qui avait fait sa carrière après aux États-Unis, autour de la convivialité, qui posait la question de notre société technoscientiste de consommation, qui faisait par exemple cette étude assez provocatrice, où aux États-Unis, dans les années 70, il avait calculé la vitesse moyenne d'une automobile en prenant en compte le temps qu'il fallait pour travailler et financer cette automobile et l'infrastructure qui va derrière. Et puis se rendait compte que la vitesse moyenne d'une automobile était de 5 km/h sur la vitesse de la marche à pied. Alors ça ne veut pas dire que l'automobile est un outil inutile dans tous les cas. Ça veut dire que construire la société autour d'une dépendance à l'automobile est un non-sens. De la même manière, on a ces réflexions autour d'André Gorz, c'est un des pères de l'écologie politique, ces réflexions autour du travail, qui vient de tripalium, qui veut dire objet de torture. Et aujourd'hui, on rencontre quelqu'un dans nos sociétés occidentales, la première question que l'on pose, c'est pas qui tu es, qu'est-ce qui te plaît dans la vie, etc. C'est qu'est-ce que tu fais, quel est ton travail, quel est ton outil de torture. Et on est complètement pris dedans. D'autant plus qu'on a un système d'économie dominant où on est condamné à avoir un emploi salarié que l'on ne choisit pas nécessairement. Je crois qu'il y a de plus en plus une minorité de personnes qui a vraiment la chance de pouvoir choisir une activité qui a du sens pour cette personne, pour la société, alors que la majorité se retrouve dans des travaux, des emplois contraints qui ont de moins en moins de sens. C'est aussi ces réflexions sur nos dépendances aux technologies, où aujourd'hui on est tous pris avec cette société des écrans, on est tous pris avec les téléphones, les tablettes, ce qui fait qu'on ne sait plus communiquer avec les gens en direct, mais c'est plus facile de communiquer via une tablette. On appelle ça des téléphones intelligents, des smartphones. Moi j'appelle ça des machines stupides. Et malheureusement, quand on n'en a pas, on se retrouve socialement exclu. Et c'est un cercle vicieux. Plus on est pris dedans, moins on s'en sort. Et ça va être peut-être encore pire avec les générations qui arrivent, qui grandissent totalement dedans. Nous, la plupart d'entre nous, on l'a pris en cours de route. On a connu d'autres sociétés où il y avait de la place pour l'imaginaire, il y avait de la place pour le temps libre, il y avait de la place pour d'autres formes de relations humaines, de jeux, etc. Et je dirais la décroissance, je pourrais en citer énormément d'autres, d'exemples, pour pouvoir revenir dessus après dans la discussion. La décroissance essaye de faire converger, de mettre ensemble toutes ces critiques, toutes ces réflexions qui viennent de différentes écoles, qui viennent de différents continents, qui viennent de différentes cultures, qui viennent de différentes traditions, etc. Et qui critiquent notre modèle de société, notre pensée unique autour du développement occidental, du toujours plus, du toujours plus loin, toujours plus vite, toujours plus de technologies, d'institutions, de lois, de contraintes, etc. Et autour de toutes ces réflexions, on essaie de construire, de penser des chemins de la transition. Et je dis bien des chemins, c'est pas un. Des transitions démocratiques et sereines, non violentes, qui s'inscrivent dans le dialogue, qui s'inscrivent dans un temps long, et qui permettent de tendre vers des nouveaux modèles de société, qui ne sont pas un retour en arrière vers une société qui serait magnifique dans le passé. Je ne crois pas qu'il y a eu de société magnifique dans le passé. Il y a eu des choses intéressantes dans toutes les civilisations, dans toutes les sociétés. Société parfaite n'existe pas. Il y a plein de choses où on peut s'imprégner des sociétés du passé, d'autres civilisations qui existent encore aujourd'hui à travers le monde et qui n'ont pas été perverties ou qui n'ont pas été entraînées dans la société dans laquelle on est aujourd'hui. Et puis, de mettre dedans plein de nouvelles choses que l'on essaie de construire. Je pense notamment à la communication non-violente. Je pense notamment au care. Je pense notamment à la convivialité, à un autre rapport au temps, à un autre rapport à l'autre, à un autre rapport au pouvoir, aux dominations, etc. Et c'est ce qu'on appelle des sociétés de décroissance, qui seraient des sociétés désirables, soutenables, relocalisées, autonomes, conviviales, et je pourrais rajouter beaucoup d'adjectifs derrière. J'en arrive à la troisième définition de la décroissance, après le slogan provocateur, la pensée multidimensionnelle. La troisième définition, c'est un nouveau mouvement citoyen. Et moi, ça fait une dizaine d'années que je suis dans ce mouvement, en France, maintenant à l'international. Et ce qui est extrêmement intéressant, je trouve, ce qui déstabilise vu de l'extérieur, ce qui déstabilise aussi vu de l'intérieur, c'est que c'est un espèce d'ovni citoyen. On ne connaît pas bien les limites, on ne sait pas bien comment c'est organisé, on ne sait pas bien qui est vraiment décroissant, qui ne l'est pas. Il y a beaucoup de gens qui sont décroissants mais qui ne se revendiquent pas du mot. Il y a beaucoup de gens qui se revendiquent du mot qui ne sont pas spécialement décroissants. Et je dirais que ce n'est pas grave. Parce qu'on essaie de réinventer des manières de vivre les mouvements citoyens, de se réapproprier la vie de la cité, la politique. Et on n'est pas dans des logiques de prise de pouvoir. On n'est pas dans des logiques de domination. On n'est pas dans des logiques de dire « on a la vérité, on va vous expliquer comment penser ». On est dans des logiques d'essayer de se poser des questions qui ont du sens et de susciter du débat, de proposer des questions, des solutions, des expérimentations, des réflexions, des chemins, et je dis bien des proposer parce que pour nous elles ont du sens. Et si ça suscite du débat, tant mieux, sinon, bah tant pis. Et autour de ces réflexions, là aussi ce qui est extrêmement intéressant au sein de la décroissance, et je crois que c'est en rupture avec beaucoup de mouvements politiques qu'on a pu connaître, c'est qu'on n'est pas uniquement dans la théorie, mais on est dans la pratique et dans la théorie. Et quand je dis qu'on est dans la pratique, on l'est d'un point de vue individuel et collectif. Ce qui fait qu'on parle des trois pieds politiques de la décroissance. Le premier, il est individuel. C'est comment individuellement je me réapproprie mon bien-être, du temps libre, ou mon temps, mon rapport à mon activité pour rompre avec un travail contraint, mon rapport à la consommation, mon rapport à l'autre, mon rapport à la vie de la cité, etc. Quand cela est possible, parce que je crois qu'on vit quand même dans des sociétés où une grande partie des populations sont aujourd'hui contraintes à devoir survivre au jour le jour. Donc c'est pas possible malheureusement pour toutes et tous. Donc c'est ce qu'on appelle la simplicité volontaire, la frugalité heureuse. Et là, on peut l'observer ici, je crois qu'il y a quand même des dynamiques dans nos sociétés où il y a de plus en plus de gens qui individuellement font ces chemins, essayent de rompre avec un certain nombre de contraintes individuelles, sociales, que l'on peut avoir pour se réapproprier leur propre chemin, à travers leur consommation, le travail, le temps libre, leur rapport aux amis, aux enfants, à la famille, etc. Le deuxième niveau, il est collectif. Et là aussi, je crois qu'il y a des dynamiques extrêmement intéressantes partout à travers le monde, autour de ce qu'on appelle les alternatives concrètes. Toutes ces initiatives citoyennes, locales, où des citoyennes et des citoyens s'organisent pour se réapproprier leur production. C'est tout ce que l'on peut voir autour des jardins communautaires, des AMAP, du faire soi-même, le do it yourself, des ressourceries, des espaces de gratuité, et ainsi de suite. Et je crois qu'il y a énormément de créativité, d'innovation, de choses formidables qui se passent en marge de la société et qui existent, qui sont vraiment présentes. On le voit peu dans les médias, on le voit peu dans la vie de tous les jours, mais il y a une transformation silencieuse de la société qui est en cours à travers ce faire. Et puis ce faire, c'est aussi se réapproprier d'autres manières de vivre ensemble, d'échanger, de prendre des décisions de manière plus démocratique. C'est tous ces nouveaux outils économiques qui sont expérimentés, les monnaies locales, les espaces de gratuité, les échanges, l'économie de réciprocité à travers les banques de temps, etc., retrouvent toute leur place et rompre avec un imaginaire d'homo economicus où on verrait la société uniquement qu'à travers l'argent. Et puis aussi des expérimentations autour d'une démocratie beaucoup plus directe. Toutes ces expérimentations et ces changements dans les comportements, dans ce type d'expérimentation où on apprend à écouter l'autre, on apprend la communication non violente. On est dans des formes de désobéissance civile, non violente. On n'est pas là pour convaincre les gens et s'énerver quand ils ne sont pas d'accord avec nous, mais essayer de dialoguer, les comprendre, faire un pas vers l'autre, créer des ponts entre différentes parties de la société qui n'a pas nécessairement les mêmes perceptions du monde que l'on peut avoir. Et autour de ces différents niveaux, il y a une espèce de mouvement qui existe, qu'on appelle décroissance, mais qu'on peut appeler aussi le mouvement des villes en transition, le mouvement permaculture, le mouvement des éco-villages. On peut donner énormément de noms. Et je dirais que ce n'est pas grave qu'il y ait plusieurs noms. Et je trouve ça très bien, parce que la société, elle est diverse. Et il faut rompre avec des logiques de centralisation des pouvoirs, de centralisation des choses, d'uniformisation, des slogans, des mots, etc. Mais au contraire, il faut cultiver des dynamiques de diversité et une culture d'ouverture à l'autre, où on est capable de faire un pas pour comprendre que l'autre peut-être n'utilise pas les mêmes mots que nous pour dire les mêmes choses, ou peut-être ne perçoit pas les choses de la même manière que nous. La décroissance, c'est un mouvement qui s'est aussi internationalisé. Il est d'abord né il y a une dizaine d'années en France, et puis s'est internationalisé, non pas qu'il a exporté ses idées vers l'étranger, mais il a rejoint d'autres dynamiques qu'on pouvait retrouver dans d'autres sociétés. D'abord dans les sociétés latines,
dans les pays francophones occidentaux comme le Québec, la Suisse, la Belgique, puis les sociétés latines comme l'Italie, l'Espagne, où le mot décroissance a été traduit, des mouvements se sont constitués, etc. dans ces pays. Il y a eu la deuxième conférence internationale sur la décroissance après la première qui a eu lieu à Paris en 2008 à Barcelone. La troisième a eu lieu à Venise. Et puis, ça a été rejoint aussi par d'autres mouvements qui posent les mêmes questions que nous, qui expérimentent des choses assez similaires, mais qui n'utilisent pas nécessairement les mêmes slogans ou qui n'ont pas les mêmes approches du fait d'autres histoires politiques, culturelles, d'autres traditions, etc. Je pense notamment au mouvement critique du développement en Afrique ou en Amérique latine avec le mouvement Buen Vivir, des mouvements comme le mouvement de la simplicité volontaire en Inde, des mouvements comme beaucoup plus pragmatiques que celui de la décroissance qui reste très philosophique, anthropologique, politique issue des sociétés latines ou de France, le mouvement des villes en transition pragmatique dans le monde anglo-saxon, en disant on sait qu'on fait face à des problèmes, on s'arrête localement, on s'organise et on agit. Et ce qui est extrêmement intéressant à travers toutes ces convergences, c'est qu'on a une diversité de réflexions, de questions, de débats, de discussions, d'expérimentations, de solutions qui sont créées au jour le jour un peu partout et qui se rencontrent, qui convergent, etc. Et c'est ce qu'on a pu observer lors de la dernière conférence internationale sur la décroissance à Leipzig, en Allemagne, l'année dernière, où il y avait plus de 3000 personnes, beaucoup de jeunes, et une dynamique assez incroyable, avec à la fois des discussions académiques, universitaires, des discussions théoriques, intellectuelles, etc., et aussi beaucoup de faire. Le faire est une approche individuelle, il y avait des ateliers comme on retrouve ici, il y avait des ateliers pour se réapproprier des savoir-faire, d'autoréparation de vélos, par exemple, de fabrication d'éoliennes, des ateliers d'auto-apprentissage sur la communication non-violente, sur les prises de décision consensus, sur la rédaction d'une constitution, par exemple, ce genre de choses. Et on sent une dynamique extrêmement forte. Et la prochaine conférence internationale sur la décroissance, elle aura lieu à Budapest l'année prochaine. Je suis l'un des coordinateurs de cette organisation. Et ce qu'on essaye de faire, là aussi, c'est que dans l'organisation, on essaie d'être en cohérence avec les idées que l'on défend. Et on réfléchit à comment créer une conférence internationale, ce qui est peut-être déjà une contradiction par rapport à la pensée de la décroissance. On a besoin pour faire se rencontrer des gens, on a besoin pour être visible, et en même temps, il faut conserver cette logique d'un mouvement décentralisé, relocalisé, etc. Et trouver des équilibres entre les deux. Et c'est ce qu'on essaie d'expérimenter de manière générale à travers cette organisation de cette prochaine conférence, à travers les mouvements de la décroissance, les mouvements connexes, etc., d'essayer d'avoir un réseau de collectifs, de personnes, de mouvements, d'associations, d'initiatives, de ce que vous voulez, qui soit une espèce de réseau horizontal, qui cultive sa diversité, qui respecte la diversité des approches, mais qui est capable aussi de créer des passerelles, des ponts entre les différentes entités, qui est capable de communiquer, qui est capable de se critiquer avec bienveillance, tout en étant critique. Je pense que le débat est nécessaire, on a besoin de débattre, de critiquer, etc. Et d'expérimenter une transformation en profondeur de la société, et pas uniquement en théorie, mais en faisant soi-même. Et que la théorie rejoigne la pratique et inversement. C'est-à-dire qu'on n'est pas des donneurs de leçons en disant « ce serait mieux si vous votez pour nous ou si on prend le pouvoir et demain on va vous dire comment vivre et comment être heureux ». C'est non, nous d'abord on essaye de se réapproprier d'autres manières de vivre pour se réapproprier le sens qu'on veut donner à nous. Donc voilà, assez rapidement je viens de présenter les trois grandes définitions que l'on donne au terme de décroissance. Et je rappelle qu'il y a plein de gens qui font des choses similaires à tout ce que j'ai évoqué, qui n'utilisent pas le mot décroissance, et c'est tant mieux, parce que c'est pas un dogme en soi, c'est un outil, c'est un porte-drapeau partagé par certaines personnes, et d'autres personnes ne s'y retrouvent pas nécessairement, mais se retrouvent derrière les idées qu'il y a dans tout ça. Et quand on a commencé à constituer, à vivre ensemble un mouvement en France, on s'est dit on va participer aux élections européennes en 2009, non pas pour être élu, mais dans le but d'occuper un espace offert par notre société oligarchique, et parce que dans les mains d'une oligarchie financière, etc., un espace offert à notre société où on peut encore un petit peu débattre, qui est le temps d'une élection. Et on s'est dit, on va occuper cet espace avec humour, dans une logique décalée, pour questionner qu'est-ce que la démocratie, pour amener les idées de la décroissance, pour questionner que sont nos institutions européennes qui avaient été rejetées par référendum quelques années plus tôt lors du traité de constitution européenne. Et on a participé, et puis on s'est rendu compte, on a commencé à créer des collectifs un peu partout en France, il y avait une chouette dynamique, on a fait un joli clip de campagne avec un escargot sans bruit qui passe à l'écran en posant des questions. Donc on était là, dans une logique des pas de côté, de questionner un peu le sens de la politique, de la citoyenneté dans nos sociétés, etc., de nos institutions et autres. Et puis on s'est dit, on va quand même proposer des choses, et quand on s'est retrouvé autour de la table avec les collègues, on s'est rendu compte qu'on était des professionnels pour déconstruire à peu près tout et n'importe quoi et critiquer, mais qu'on était un peu plus juste dans une logique de proposition. Donc on a commencé à réfléchir en groupe, faire des brainstorming, comme on dit maintenant, et la première des réflexions qui nous a animés dans cette logique de projet de décroissance, c'était de se dire, mais la transformation de la société, elle est déjà en marche. C'est-à-dire que dans nos activités individuelles et collectives quotidiennes, on est déjà en train de transformer la société. Quand on crée une AMAP, on participe à une AMAP, quand on participe à ce genre de festival, quand on crée une monnaie locale, ou on lance une initiative ville en transition, etc., on se réapproprie la politique avec un grand P, la ville de la cité. Et le projet, il est déjà en marche, il est déjà là. Et puis après, on s'arrêtait, on s'est regardé un peu dans le miroir, et puis on s'est rendu compte qu'on fait des choses formidables, mais on est quand même, même si la dynamique est extrêmement intéressante, archi-minoritaire, et on n'est pas nécessairement représentatif de la diversité de nos sociétés, en termes de classe sociale, d'origine, de culture, de quartier, de territoire, etc. On est majoritairement, enfin, beaucoup comme moi, en caricaturant un peu, plutôt urbain, plutôt issu d'un milieu familial protégé, avec une pléthore de diplômes pas toujours utiles. On a eu la chance à un moment donné de pouvoir arrêter de travailler pour lire des livres, pour réfléchir, pour se réapproprier le sens qu'on voulait donner à notre vie. Donc on est plutôt des privilégiés. Et on s'est posé la question parce que on prend beaucoup de plaisir et on se réapproprie une certaine forme de bien-être en faisant ça. On s'est posé la question pourquoi le reste de la société ne nous suit pas. Et une des analyses qui nous a motivés, il y en a beaucoup d'autres, mais une des analyses qui nous a trouvées extrêmement contraignantes dans cette société, c'est qu'on vit dans une société extrêmement anxiogène, dominée par la peur. Et il suffit d'allumer sa télévision pour voir comment les informations, de manière tout à fait réfléchie, entretiennent un certain nombre de peurs, des peurs réelles ou des peurs créées, fantasmées. Mais par contre, il y a une peur qui est bien réelle et toujours plus prégnante pour un homme toujours plus grand des populations de nos sociétés, c'est la peur économique. C'est qu'on vit dans une société où une grande partie de la population a peur de perdre son emploi. Qui dit perdre son emploi veut dire ne pas pouvoir rembourser son emprunt. Ne pas pouvoir rembourser son emprunt, c'est expulsé de son logement. Et puis après, c'est toute la vie, le socle familial qui explose, etc. On vit dans ces sociétés contraintes par un sentiment d'insécurité permanent. Et on le voit de manière d'autant plus folle avec les jeunes générations qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail sans grand espoir. Et quand on regarde l'histoire des civilisations, c'est quelque chose d'extrêmement unique. C'est-à-dire que la plupart, l'ensemble des civilisations de l'histoire de l'humanité ont toujours organisé leur culture, leur tradition, dans une logique de permettre aux générations futures de pouvoir perpétuer la vie de cette civilisation. Et nous, menés par une quête inconsciente du toujours plus pour protéger la vie des générations futures, on a créé des sociétés qui en fait détruisent, à la fois à court terme économiquement, socialement, les conditions de vie directement de nos enfants, et environnementalement, et aussi sociétalement, détruisent les conditions de vie des générations futures. Et on s'est dit, il faut qu'on pense à des outils pour se réapproprier une forme de sérénité. Il n'y aura pas de réappropriation de nos choix de vie, il n'y aura pas de forte participation à la transformation de la société au-delà de nos réseaux, si on ne met pas en place des politiques, des outils sociaux, économiques, des dynamiques de solidarité dans la société qui font qu'on sort de ces peurs, qu'on sort de ces logiques de compétition, qu'on sort de ce sentiment d'insécurité permanente. Et donc on a travaillé, on s'est réapproprié des choses qu'on n'a pas du tout inventées, qui ont déjà été discutées, expérimentées de par le passé. Je pense notamment au revenu de base, qui consiste à donner de la naissance à la mort de manière inconditionnelle, ce qui est suffisant pour avoir une vie décente pour toutes et tous. On pense aussi à d'autres outils de relocalisation, parce que je crois que pour avoir des sociétés où on a un sentiment de sécurité, il faut vivre avec les gens avec lesquels on est autour de nous, il faut recréer du lien social, il faut recréer des dynamiques de solidarité. Donc les sociétés qu'on appelle de resocialisation de la politique, repolitisation de la société, de création de solidarité, des outils comme par exemple les monnaies locales. Et comme pour le revenu de base, l'enjeu c'est pas tant d'avoir un outil technique qu'il faut mettre en place de manière technocratique, l'enjeu c'est de créer des dynamiques dans la société où les gens se rencontrent et se posent la question ensemble, qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit, pour quel usage, comment on s'entraide, comment on partage les tâches difficiles, comment on se soutient en cas de problème, etc. Et puis de la même manière, on a là aussi réfléchi, expérimenté ce qu'on appelle cette logique de gratuité, quasi-gratuité du bon usage et renchérissement du bon usage, de mettre en place des formes de tarification locales en fonction des usages que l'on fait. Par exemple, pourquoi payer le même prix le litre d'eau qu'on utilise pour des choses qui sont vitales, comme boire, faire à manger, faire la vaisselle, se laver, ou le litre d'eau que l'on gâche pour laver son 4x4 ou pour remplir sa piscine individuelle ou arroser un golf. Et là aussi, l'enjeu, c'est pas tant d'avoir un outil technique parfait. L'enjeu, c'est de créer des dynamiques sociales où on s'assoit localement autour d'une table et on réfléchit, mais le litre d'eau que l'on consomme, d'où est-ce qu'il vient, comment il est produit et quel sens je donne à cette consommation. Qu'est-ce qui est vital, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et comment on peut commencer à mettre en place d'autres formes de dynamiques sociales dans la société. La troisième chose qui nous a interpellés, donc les alternatives concrètes qui sont un changement de la société qui est déjà en cours, rompre avec certaines peurs qui sont créées pour resocialiser nos sociétés localement pour une plus forte participation à cette transformation. Et le troisième levier qui nous a interpellés, c'était le fait que l'on vit dans des sociétés qui ont atteint des niveaux d'inégalité monstrueux. On vient d'atteindre ce niveau symbolique de 85 personnes qui, à travers le monde, possèdent autant que 50% de l'humanité. 85 milliardaires. Et on pourrait dire, à la rigueur, si tout le monde avait suffisamment d'espace, de vie, etc., pour vivre bien, pourquoi pas? C'est inégal, c'est injuste. En plus, on s'enrichit rarement de manière non frauduleuse ou sans exploiter, que ce soit l'environnement ou d'autres personnes. Mais en plus, ça colonise nos imaginaires. Et il suffit d'allumer les médias dominants pour voir comment le mode de vie des plus riches est en permanence mis en avant comme un modèle à suivre, comme un modèle de bonheur indépassable. Et c'est ce que Thurston Golden appelait la rivalité ostentatoire. Et les publicitaires l'ont très bien compris. Les oligarques, vu qu'on vit dans un monde oligarchique dominé par une oligarchie financière, l'ont très bien compris. Et c'est ce qui leur permet de faire accepter au plus grand nombre cette logique qu'elle est très riche. D'un côté, on laisse croire la possibilité que tout le monde peut devenir très riche. C'est le mythe le mythe américain, de l'homme qui se fait soi-même ou la femme qui se fait soi-même, etc. Et c'est ce qu'on peut voir par rapport à, par exemple, par cette étude où si on demande aux États-Unis, à la population états-unienne, si vous pensez faire partie du 1% des plus riches, 1% des gens répondent oui. Et si on demande au reste de la population, est-ce que vous pensez qu'un jour vous allez faire partie vous allez faire partie du 1% des plus riches, à nouveau 20% répondent. Et on vit dans ces sociétés qui sont complètement omnibulées et qui font accepter ces niveaux de misère, d'inégalité, etc. Omnibulées par ce mythe que c'est un objectif en soi pour être heureux de devenir très riche. Et que c'est même souhaitable qu'il faut y aller, etc. Le problème il est, c'est que on peut l'observer au quotidien, on ne devient pas très riche très facilement. Le système est extrêmement, extrêmement cassé. Ces dernières décennies, ça a même été plutôt le contraire. Il y a eu un retournement de la rémunération du travail par rapport au capital. Aujourd'hui, pour devenir très riche, il vaut mieux avoir un capital que des bonnes idées ou travailler 10 fois plus que quelque soit d'autre. Donc ça ne marche pas, en plus ça n'a pas de sens. Et ça crée énormément de frustration. Et la publicité l'utilise très bien, c'est qu'en permanence, elle instrumentalise cette logique de frustration pour faire des citoyennes et des citoyens des consommateurs compulsifs. On crée des frustrations, l'homme est un animal social, se compare à son voisin. À travers les médias, le voisin, c'est les très riches, c'est les oligarques, etc. Le voisin, il a un nouvel écran plat, il a une nouvelle voiture, il a la piscine, il a ça. Donc, on est complètement en permanence pris dans ces dynamiques du toujours plus, de consommer toujours plus. Et c'est des choses qui sont faites par les 300 000 publicitaires qu'on a en France, qui sont des gens brillants, plein d'imagination, de créativité, etc. Et des gens aussi qui s'appuient sur un certain nombre de théories de psychologie sociale, de psychologie, de sociologie, pour manipuler les cerveaux et nous faire désirer toujours plus de choses dont on n'a pas vraiment besoin, ce qui crée du mal-être, des frustrations, un esprit de compétition, des rivalités, etc. Et donc on s'est dit, là aussi, on n'a rien inventé, on s'est appuyé sur un outil qui existe depuis très longtemps, ça a déjà été mis en place, expérimenté à plusieurs reprises dans l'histoire, qu'il fallait remettre en place un revenu maximum acceptable. C'est-à-dire se réapproprier, là aussi, c'est pas tant la logique d'avoir un outil technique parfait, mais c'est se réapproprier le sens des limites. Je crois qu'on ne peut pas être heureux dans une société si on n'est pas capable de se donner des limites, si on n'est pas capable d'être adulte, entre guillemets. C'est ce qu'on voit par exemple avec un enfant, on le fait une fois. Face à des bonbons, on va manger tous les bonbons qu'on a. Mais manger toujours plus de bonbons, ça nous rend malade. Ce qui ne veut pas dire que les bonbons, ce n'est pas bon. Mais c'est trouver des justes équilibres. Et aujourd'hui, comme dit Noam Chomsky, nous sommes des grands enfants avec une carte Gold. Et on court toujours plus à nous rendre malheureux en espérant être heureux de cette manière-là. Donc il faut savoir se réapproprier individuellement et collectivement des limites, pour se réapproprier du sens à nos vies, se réapproprier des choses, on se l'interdit. On se l'interdit, ce qu'on a trouvé dans toutes les sociétés, dans l'histoire de l'humanité, on trouve par exemple la poudre qui avait été inventée par les Chinois, et les Chinois, ils disaient, non, la poudre, c'est trop violent pour faire la guerre, nous, on ne l'utilise pas. Les Occidentaux l'ont utilisée. Et on peut trouver énormément d'exemples comme ça à travers l'humanité, d'exemples dans des civilisations qui se sont interdits de faire un certain nombre de choses. Et nous, aujourd'hui, en société occidentale, on ne s'interdit plus rien. Et on part tête baissée dans toujours plus de destruction, de domination, d'exploitation, etc. Donc le revenu maximum acceptable, dans le livre, par provocation, histoire d'ouvrir un débat, on parle d'un niveau de 1 à 4, entre le revenu minimum et le revenu maximal. Alors au départ, tout le monde criait, le but fou, c'est n'importe quoi, et puis après, d'autres personnes sont arrivées en proposant 1 à 30. Et l'idée est très bien passée en disant, oh, il est décroissant, il dit n'importe quoi, 1 à 4, c'est pas acceptable, 1 à 30, c'est très bien. Et c'est comme ça qu'avancent les débats petit à petit.
Excuse-moi,
oui.
1 à 4, 1 à 30,
c'est entre le revenu minimum et le revenu maximal. Donc, par exemple, si on accepte un revenu minimum pour toutes et tous autour d'un équivalent de 1 000 euros, c'est un exemple stupide, on dit qu'au-delà de 4 000 euros, on n'accepte pas qu'il y ait des revenus supérieurs et l'impôt prend tout. Les taxes, on peut inventer un système via des coopératives, etc. On prend tout. Et puis, en parallèle de ce revenu maximum acceptable, on a réfléchi aussi sur un certain nombre de mises en place de redistribution autour de choses qui sont fondamentalement destructrices. Le complexe militaro-industriel, premier budget mondial, 1600 milliards de dollars par an, avec, moi je vois beaucoup de mes amis ingénieurs qui sont des gens humainement formidables, qui sont... pour des capacités intellectuelles, de créativité, de conception, etc., formidables, bah, tout ça s'est mis à profit du complexe militaro-industriel, parce que c'est le seul endroit où on trouve du boulot aujourd'hui en Europe, pour vendre des armes, notamment les armes qu'on a vendues à la Grèce avec les emprunts qu'on leur a donnés. Deuxième budget mondial, la publicité, que j'évoquais précédemment. 1 000 milliards de dollars par an dans le marketing. Ça interpelle. Et puis après, on peut parler de la finance. Aujourd'hui, par exemple, la France qui, dans son budget, dépense autant pour rembourser sa dette que pour l'éducation. Je crois que là, en termes de... dans quelques décennies ou quelques siècles, les populations qui, j'espère, seront assagies, regarderont en arrière et diront « mais ces gens étaient fous » pour dépenser autant dans la spéculation, il y a des choses qui sont totalement absurdes, que dans l'éducation, c'est-à-dire les générations futures. Après, on peut poser la question de quelle éducation, j'y reviendrai plus tard. Et d'autres choses, comme j'évoquais tout à l'heure, l'obsolescence programmée, des gadgets, des choses totalement inutiles. Donc de mettre en place des taxations et des redistributions extrêmement importantes pour rompre avec ces dynamiques où, en fait, il sera intéressant de calculer quelle est la part de travail salarié aujourd'hui qui est à la fois destructif, contre-productif ou inutile dans nos sociétés. Combien de gens se lèvent le matin pour faire des choses qui n'ont pas de sens, voire même qui vont plutôt à l'encontre du bien-être général de nos sociétés. Et puis la dernière des choses qui nous a interpellés, mais on pourra en avoir beaucoup d'autres, c'est qu'on s'est rendu compte, puisqu'on menait ce débat, et j'aime l'évoquer rapidement, là aussi, on menait ce débat dans l'après 2008, ce qu'on a appelé la crise de la dette. Après, on a commencé à parler des dettes publiques, et au nom des dettes publiques, il fallait détruire l'éducation, il fallait détruire la santé, il fallait détruire les solidarités, la culture, etc. On s'est posé la question, qu'est-ce que cette histoire de dette publique? Ça sort d'où? Elle appartient à qui? Comment elle a été construite? Et là, c'est pareil, quand on commence à s'intéresser à ça et qu'on regarde un peu d'où ça vient, on se rend compte que c'est une imposture effroyable. On se rend compte que d'une part, l'argent, ça ne se mange pas, que c'est une construction, que les billets qu'on utilise, c'est comme des billets de Monopoly, on peut en fabriquer autant qu'on veut, plus ou moins, que c'est dans les mains d'une oligarchie, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a des traités européens avec une banque centrale européenne qui est totalement indépendante de tout pouvoir démocratiquement élu, de toute démocratie, dans les mains de technocrates oligarques. Et puis que ces dettes publiques, c'est le cas de la France par exemple, où historiquement la banque de France pouvait faire tourner la planche à billets pour financer des projets à la suite de choix politiques qui avaient du sens pour la société, elle ne payait pas d'intérêt sur ces endettements qui étaient construits. Et puis quand on n'arrivait pas à rembourser, c'est ce qu'explique très bien David Graeber, anthropologue états-unien, avec son livre 5000 ans d'histoire de la dette, c'est que les dettes, elles n'ont jamais été faites pour rembourser. Elles n'ont jamais été remboursées. En général, quand on va trop loin pour les rembourser, ça crée des tensions, ça se finit en révolution, on coupe des têtes, et la première chose qu'on brûle lors d'une révolution, c'est les registres de la dette. Et nous, aujourd'hui, on part tête baissée, là aussi, dans une approche totalement sacro-sainte de la dette qu'il ne faut pas toucher. Et puis, on se rend compte, quand on prend l'exemple de la France, on pourrait prendre l'exemple de la Belgique, de la Grèce, pardon, quand on prend l'exemple de la France, on se rend compte que depuis les années 70, la Banque de France ne pouvait plus emprunter directement à des taux autour de zéro, devait emprunter dans des banques privées, qui elles-mêmes donnaient de l'argent qu'elles n'avaient pas, qu'elles empruntaient à des taux zéro en faisant tourner la planche à billets. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, le niveau d'endettement, à peu de choses près, de la France, c'est les taux d'intérêt qu'on a payés à des banques privées pour de l'argent qu'elles nous ont prêté qu'elles n'avaient pas. Et c'est un exemple classique. Le cas de la Grèce, il y a eu une commission qui a été mise en place par le gouvernement de Tsipras, on va pas s'étendre sur le sujet, mais cette commission a fait un travail intéressant avec le comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde et Eric Toussaint, qui est un économiste belge, qui démontre l'imposture totale de la dette grecque, bien loin de ce que l'on peut raconter dans les médias dominants ou les tabloïds allemands, que le grec se serait engraissé depuis des années sur le gentil travailleur allemand ou ce genre de narration totalement absurde. C'est que la totalité de la dette grecque est une imposture. Elle est créée sur de la spéculation uniquement financière, dans le but, en plus à la base de documents falsifiés, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on pourrait revenir dans la discussion après. Et c'est un exemple classique aujourd'hui du piège dans lequel on est au niveau de la dette. Et au-delà de la dette, il y a un imaginaire que nous on appelle celui de l'homo economicus, qui fait qu'aujourd'hui dans notre société on est incapable, on est pris dans ce piège où on voit les choses toujours avec des œillères. Du style, on dit tout travail mérite salaire. Quand on regarde les études, on se rend compte que la majorité des tâches qui sont faites dans nos sociétés sont faites à l'extérieur de la logique marchande. Et pourtant, les œillères nous font voir le monde uniquement avec des chiffres, de l'argent, etc. La même chose que j'évoquais par rapport à la dette. Et on est dans une forme de financiarisation à la fois de l'économie, mais aussi une financiarisation culturelle de nos sociétés. Et là, je crois qu'il faut remettre l'économie, à la fois d'un point de vue politique, institutionnel, à sa place, et aussi d'un point de vue social et culturel. C'est-à-dire que l'économie doit redevenir juste un des outils de la gestion, du fonctionnement de nos sociétés. L'argent, au départ, c'est quelque chose de symbolique dans des échanges. Mais la majorité des échanges, ça reste quand même ce qu'on est en train de faire là actuellement, des logiques de réciprocité. On passe du temps ensemble en échange. C'est ce que vous faites pendant toute cette semaine. Ce que vous allez donner et recevoir et n'est pas mesurable économiquement. C'est totalement absurde. Et on est pris totalement dans ce piège de devoir mesurer. Je crois que c'est lié aussi avec une approche extrêmement rationnel de nos sociétés. On veut toujours tout rationaliser, etc. Et je crois qu'il faut laisser de la place à l'humain et à l'échange et à des espaces de gratuité, à des espaces de réciprocité dans le fonctionnement de nos sociétés. Donc on a un peu mis tout ça ensemble et puis on a créé un outil avec un terme barbare, on aime bien se faire plaisir, qui s'appelle dotation inconditionnelle d'autonomie, qui serait un peu comme un revenu de base, mais partiellement démonétarisé. Et là aussi, le but, ce n'est pas tant d'avoir un outil technique parfait, je crois que ça n'existe pas. Le but, c'est de susciter du débat, des réflexions, pour que les gens se rendent compte et discutent. Et dans cette dotation inconditionnelle d'autonomie, on pourrait y intégrer un certain nombre de choses, comme un accès gratuit à un certain nombre de services, un certain nombre de ressources, et ça pourrait être donné à la fois en droit d'accès, droit d'usage, monnaie locale, sur différents niveaux, au niveau d'un quartier, d'une commune, d'une région, d'une nation, ou d'une super région, supranationale, etc. Mais avec pour objectif de discuter. Donc on pourrait dire, on considère de manière inconditionnelle, pour toutes et tous, le droit d'avoir un logement décent, le droit d'avoir un accès à un espace pour cultiver ce dont on a besoin pour se nourrir, pour avoir des activités qui ont du sens. Le droit d'avoir accès à un certain nombre de ressources, comme de l'eau, de la nourriture, de l'énergie, etc. Et le but, à chaque fois, dans cette dynamique, c'est de se poser la question de qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit, pour quel usage, comment on répartit les choses, comment on les échange, comment on les produit, comment on partage les tâches difficiles. Et rompre uniquement d'une gestion commerciale orientée vers le profit que l'on connaît aujourd'hui. De la même manière avec les services publics. D'avoir un accès gratuit à la santé, à l'éducation, services de pompes funèbres, certains transports quand ils ont du sens. Mais là aussi, l'enjeu, ce n'est pas d'avoir, ce qui est le cas en France, une sécurité sociale totalement dans les mains du lobby pharmaceutique, où on nous vend toujours plus de saloperies pour faire tourner une pompe à fric. Et qui plus est, pour soigner des maladies qui sont créées par un mal-être, par le stress, par de la malbouffe, etc.
Les
médicaments, exactement. Et comme disait Hippocrate, ton médicament sera ta nourriture. On en est extrêmement loin aujourd'hui. De la même manière avec l'éducation. L'enjeu n'est pas d'avoir des universités où on crée des conseils d'administration en mettant des PDG de multinationales pour avoir à la fin du cycle universitaire des travailleurs efficaces, dociles, non autonomes, qui ne pensent pas par eux-mêmes, pour faire tourner la machine productiviste. L'enjeu, c'est d'avoir des gens qui soient autonomes au sens de Castoriadis, qui se réapproprient individuellement, collectivement, le sens qu'ils souhaitent donner à leur vie, qui sont capables de communiquer les uns avec les autres, d'avoir des activités ludiques, la communication non violente, un autre rapport à la nature, un autre rapport à soi, à l'autre, etc. Je crois qu'on en est bien loin aujourd'hui à travers nos systèmes éducatifs, et je pense qu'en France on est encore l'un des pays les moins pires par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres pays, malheureusement. Et puis on peut avoir aussi une réflexion sur les médias de manière générale, l'information. Je crois que là aussi on est très loin d'avoir une information libre, diverse, dans une logique de débat. La plupart des grands organes de presse dans nos sociétés occidentales sont dans les mains de multinationales, de l'oligarchie financière, du système bancaire et autres. Donc on aurait cette logique de dotation inconditionnelle d'autonomie couplé à un revenu maximum acceptable. C'est une chouette idée, ça paraît totalement loin des réalités sociales et politiques actuelles de notre société. Donc j'en arrive à la troisième partie et dernière partie de ma présentation sur comment mettre en place, étape par étape, une telle transformation de la société. Et là, je reviens à ce que j'évoquais déjà à deux reprises dans les deux premières parties, c'est que la transformation de la société, elle est déjà en marche. Et on peut imaginer, sur un temps assez long, qu'avec toutes ces dynamiques autour du changement individuel et collectif, de ces alternatives concrètes que l'on peut observer partout à travers le monde, une dynamique vraiment formidable, on peut imaginer qu'à travers leur extension, on peut avoir une transformation en profondeur suffisamment forte de la société pour rompre avec le système dans lequel on est aujourd'hui. On pense que c'est un peu probable pour principalement deux raisons. La première, c'est qu'on n'a pas le temps, c'est-à-dire qu'une telle transformation prendrait beaucoup trop de temps par rapport aux enjeux, aux contraintes bien présentes auxquelles on fait face aujourd'hui, contraintes écologiques, contraintes économiques, avec l'extension des inégalités, de la misère, etc. Et puis aussi un certain nombre de contraintes liées à cette fuite en avant-guerrière dans laquelle on est entraîné, liées aux conséquences de cette fuite en avant-guerrière avec l'arrivée d'une forte immigration, etc. Donc on fait face à des problèmes qui dépassent et qui ne peuvent pas être résolus uniquement par une société qui s'auto-réorganiserait par le bas, par manque de temps et par manque de capacité de transformation. Et donc, on a besoin, on pense, d'appuyer et de faire en parallèle de ces initiatives citoyennes un certain nombre de démarches de résistance, de pression contre l'oligarchie, contre les lobbies, sur les pouvoirs décisionnels, non pas pour se réapproprier le pouvoir, mais pour jouer un rôle de contre-pouvoir et faire pression pour s'approprier toujours plus la loi à travers un droit à l'expérimentation qui doit être étendu. Aujourd'hui, la loi poussée par les lobbies va plutôt dans le sens de bloquer ces initiatives citoyennes. On le voit avec la privatisation du vivant et des entreprises comme Monsanto qui nous interdit de plus en plus de pouvoir réutiliser nos propres semences, de faire pression sur la loi, de faire pression pour des redistributions, une réappropriation des communs, une remise en question du droit de propriété quand celui-ci va à l'encontre de l'intérêt général, pour avoir toujours plus d'espace pour expérimenter, pour se réapproprier nos productions, pour se réapproprier la vie, le partage, l'échange, les décisions démocratiques, etc. Et puis faire pression aussi pour une redistribution économique, pour rompre avec les inégalités. On parlait du revenu maximum, un certain nombre de taxations, etc. Mais l'enjeu n'est pas de prendre le pouvoir, l'enjeu c'est de faire pression pour déconstruire ces logiques de domination qu'on a dans nos sociétés. Pourquoi ne pas prendre le pouvoir? Parce que l'histoire nous l'enseigne, si on prend le pouvoir, on est pris par le pouvoir. Et il faut être très prudent par rapport à ça. Une deuxième étape, une dynamique, dans cette dynamique-là qui nous paraît intéressante, donc toujours dans cette dynamique qui partirait d'en bas, de réorganisation de la société par le bas, réappropriation des productions, des échanges, des décisions démocratiques, etc. Ce serait, puisqu'on vit dans des sociétés dominées par le travail, avec énormément de gens qui souffrent de ne pas avoir de travail, et énormément de gens qui souffrent d'avoir un travail qui n'a plus de sens, qui est stressant ou qui en font trop, ce serait cette logique de travailler tous pour travailler moins, et de mettre en place un certain nombre de réformes, si possible décentralisées, le moins technocratiques possible. On a pu voir comment ce type de réforme avec les 35 heures, quand elles sont mises en place de manière technocratique, peuvent avoir des effets bénéfiques pour une partie de la population, mais aussi dévastateurs pour une autre partie de la population. Comment elles peuvent être récupérées politiquement, puisqu'après la mise en place des 35 heures, la personne qui a été élue président de la République, c'était sur le slogan « Travailler plus pour gagner plus ». Comment elles peuvent être créer plus de confusion si elles ne s'inscrivent pas dans une dynamique d'autonomie, de réappropriation et de choix individuels sur le fait de travailler moins, sur une réappropriation du sens qu'on veut donner à nos vies, c'est-à-dire que si d'un côté on dit aux gens « Travaillez moins pour vivre mieux » et que d'un autre côté on leur rabâche en permanence que pour vivre heureux il faut toujours plus de croissance, que pour vivre heureux il faut toujours consommer plus, etc. On a un peu quelques petits problèmes de schizophrénie, et c'est ce qui s'est passé je crois avec les 35 heures, des effets très positifs pour certaines personnes qui sont protégées à certains discours et beaucoup moins pour d'autres personnes. Donc dans une logique décentralisée, à titre d'exemple, je suis ingénieur, je gagne suffisamment bien ma vie pour mettre de l'argent de côté et passer plus de temps avec mes enfants. Je vais voir mon employeur et je lui dis que j'ai envie de travailler beaucoup moins. La réponse, c'est non. C'est soit tu es viré, soit tu continues à bosser 50 heures par semaine et c'est comme ça et c'est tout. Donc on pourrait imaginer de dire, on met en place une plateforme commune où des gens à compétences égales, expérience égale, se partagent des projets. Et on se retrouve sur une année où je travaille cette année sur trois grands projets de recherche ou de conception ou de trois grands projets. Et je me mets en relation avec d'autres ingénieurs qui ont les mêmes expériences, les mêmes compétences, et on partage des projets. Et je me réapproprie du temps libre que je peux passer à la transformation de la société, ou à l'oisiveté, ou à lire, ou à m'occuper de mes enfants, ou à voyager, ou à faire beaucoup d'autres choses. Donc une logique décentralisée du partage du travail dans une logique de travailler tous pour travailler moins. Et puis avancer petit à petit pour cette transformation en profondeur de la société. Enfin, une troisième étape qui nous paraît intéressante, ce serait la mise en place d'un revenu de base inconditionnel. Elle nous paraît intéressante pour une très bonne raison, c'est que d'une part, c'est techniquement très simple. C'est beaucoup plus simple que tout le système Pôle emploi, RSA, répartition et tout le flicage qui va derrière et toutes les différentes lois, les droits des uns, les droits des autres, etc. que l'on a actuellement, qui est une usine à gaz infernale. Mettre en place un revenu de base est quelque chose d'extrêmement simple.
Moins coûteux.
Plus efficace. Et les études sur le financement d'un tel revenu de base montrent qu'à l'échelle de 700 et 800 euros par mois En France, c'est quelque chose qui est tout à fait possible sans une modification totale ou en profondeur du système de taxation par rapport, juste en redistribuant, en redéployant un certain nombre de répartitions qui existent déjà. Je pense au système de retraite, je pense à Pôle emploi, à l'aide aux entreprises, etc., etc. Et puis, un certain nombre d'économies d'échelle sur le fait qu'on sort d'une logique de bureaucratisation, de flicage totalement délirant et qui plus est extrêmement humiliant pour les personnes qui se retrouvent en situation compliquée de chômage. Et on pourrait imaginer de s'appuyer sur ce revenu de base avec en parallèle un revenu maximum acceptable, certain nombre de redistributions importantes que j'évoquais, on roule de manière importante avec le budget militaro-industriel, le marketing, l'obsolescence programmée, les gadgets, etc. On pourrait aussi imaginer de le mettre en parallèle avec une réappropriation politique de l'économie, une réappropriation politique de la création monétaire, de la banque centrale, un plus grand contrôle sur le système de banque, une sortie de la financiarisation de l'économie et de la spéculation, et puis des audits citoyens, démocratiques, des dettes. Quelle part des dettes sont légitimes ou illégitimes, si on ne les rembourse pas, quelles sont les conséquences, à qui on les rembourse, etc. etc. Et donc on pourrait imaginer la mise en place de ce revenu de base, un certain nombre de réformes, et tout en s'appuyant sur ces dynamiques citoyennes, avec en plus le revenu de base, ça permet à toujours plus de populations de se réapproprier des activités qui ont du sens. Et avec toutes ces dynamiques citoyennes de transformation de la société qui partent d'en bas, on peut s'imaginer de démonétariser étape par étape ce revenu de base. Par exemple, ici, à Royan, s'est mis en place une monnaie locale autour d'un réseau de producteurs bio, de légumes, de fruits, de tout ce que l'on veut, qui permet à la population, avec cette monnaie locale et ses productions, de se nourrir. Donc on n'aurait plus, par exemple, 800 euros par mois pour toutes et tous, mais on aurait 500 euros par mois pour toutes et tous, et de la monnaie locale qui permet d'acheter la nourriture localement. De la même manière, s'est mis en place une régie publique de la gestion des eaux, avec une tarification de gratuité pour les 3000 litres d'eau qu'on considère comme étant un bon usage et un renchérissement des litres d'eau qu'on considère comme étant un mésusage. Et donc, on n'aurait plus 500 euros plus de la monnaie locale par nourriture, mais 400 euros, un certain nombre de litres d'eau, de la monnaie locale et la nourriture. Et à travers cette réorganisation, cette transformation, on sort d'une centralité des marchés, de l'économie, etc. Et on s'appuie et on appuie la transformation de la société pour plus de solidarité, de réappropriation de qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit, pour quel usage. Donc voilà, j'en termine là avec ma présentation. Je vais juste faire une courte conclusion. Donc, on a développé des chouettes idées. Je crois que dans la société, il se passe énormément de choses qui sont tout à fait formidables et enthousiasmantes et qui ramènent de l'espoir. C'est ce qu'on a essayé de faire avec notre livre. Notre livre, comme je le disais dans l'introduction, c'est surtout pas un projet clé en main. C'est pas quelque chose, c'est pas un petit manuel à appliquer ligne par ligne, etc. Notre livre, il a pour vocation de susciter du débat, de se dire qu'il y a peut-être d'autres choses à faire que ce que l'on nous rabâche aujourd'hui dans les méga dominants, qu'il y a des choses qui se passent, qu'il y a des choses que l'on pourra expérimenter, et que l'espoir, il est là pour sortir de cette impasse mortifère dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et moi, j'ai tendance à être à la fois extrêmement pessimiste, quand, par exemple, je travaillais à l'ambassade de France en Hongrie, je discutais avec une certaine élite intellectuelle et politique de nos sociétés, qui vit complètement dans sa bulle, qui vit dans la religion de l'économie, qui est incapable de penser la société à l'extérieur de ses indicateurs macroéconomiques, à l'extérieur d'une logique du retour de la croissance, donc de servir les intérêts des multinationales, etc. C'est d'autant plus inquiétant, c'est que beaucoup d'entre eux ne le font même pas par cynisme, mais ils le font par incompréhension de ce qui se passe réellement, et ils le font aussi par mépris des populations. Ils pensent que les populations sont incapables de s'auto-organiser et de faire par elles-mêmes, et ils pensent que les solutions doivent toujours venir d'en haut. Et quand je vois ça, cette dynamique qu'il peut y avoir, quand on regarde les médias dominants, quand on voit à quel point ils sont au service d'une oligarchie financière qui nous amène toujours plus vite vers plus d'inégalités, vers plus de barbarie, vers plus de violence, vers plus de guerre, vers plus d'accaparement des terres, de mouvements de population, etc. Les conséquences, elles sont déjà là. Je crois que nous sommes déjà dans les barbaries. Là, depuis quelques semaines, en Hongrie, on vit quelque chose d'extrêmement dur humainement à vivre, puisqu'il y a eu plus de 100 000 personnes venues principalement d'Afghanistan, d'Irak et de Syrie qui sont arrivées en Hongrie, dans un pays d'un million d'habitants. dans des villages de quelques milliers d'habitants. Donc avec les copains et les copines, on essaye de s'organiser pour soutenir ces personnes, puisqu'il y a un abandon du politique à la fois hongrois et européen, des personnes en détresse, avec beaucoup d'enfants. Donc on se sent dépassé quand on se retrouve face à ces barbaries-là. On se retrouve aussi, et on le voit à travers comment la société civile est capable de s'organiser, on voit que le pouvoir, il est en nous, le pouvoir, il est ici. Le pouvoir, il est dans le faire, dans l'auto-organisation, dans la réappropriation de nos choix de vie, du sens qu'on veut donner à nos vies, dans la réappropriation des outils économiques. Et quand je vois tout ce qui se passe partout, j'ai la chance d'aller depuis plusieurs années, des dynamiques qu'il peut y avoir, je me dis qu'on a de très, très très bonnes raisons d'avoir de l'espoir, puisque les solutions, elles sont déjà là. Malheureusement, elles ne sont pas suffisamment présentées, elles restent encore minoritaires, mais les dynamiques et les solutions sont là. Donc je vous remercie et maintenant je vous laisse la parole pour pouvoir dialoguer.
Ce qui me paraît aussi extrêmement nécessaire, c'est de faire une éducation à la responsabilité. Parce qu'en tant qu'ex-enseignante à la retraite, je suis en train d'écrire quelque chose sur ce que moi je nomme l'arnaque de l'éducation nationale, où on a éduqué les enfants à la facilité. C'est-à-dire qu'on a voulu leur faciliter un maximum les choses, à tel point que c'était plus faire avec eux, mais c'était faire à leur place. Ce qui les a complètement déresponsabilisés. Et ce qui est grave pour quand ils deviennent des adultes. Et ça me va absolument. On leur apprend pas l'autonomie. C'est une société endormie. Ça donne une société endormie. On va très peu dans la rue à l'heure actuelle. En Espagne, on est plus dans la rue, on est endormi. On nous a endormi avec l'argent.
Je prends la parole, moi j'essaie de le faire.
À un moment donné, elle passe la disponibilité à l'autre.
Vas-y, Aude.
Si ça part dans tous les sens, on n'a plus le gérable.
Aude.
Vous avez terminé ?
Oui.
Voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, puisque j'ai été dans l'enseignante aussi, et j'ai essayé, dans la mesure de mes moyens et contre mes collègues, de mettre des choses en place. Je ne sais pas si vous connaissez des fois les problèmes qu'on peut avoir dans certains endroits, mais bon. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que là, on voit ça sur le plan d'éducation nationale, mais il y a aussi un plan de vue, je dirais, spirituel, que nous n'avons malheureusement pas dans notre éducation nationale, je dirais, basique. Et je pense justement que ce sens de la responsabilité et de l'autonomie, il est donné dans certaines écoles, comme les écoles qui dépendent de Rudolf Steiner, de toutes, bon, les écoles Waldorf. Moi, j'y suis allée à Chatou, j'avais été invitée à Chatou, qui est l'endroit où l'on éduque, si on peut dire, les futurs éducateurs, c'est aussi une école pédagogique. Et j'ai vu comment, en une journée, j'ai eu l'occasion d'aller dans tous les domaines, on m'a montré, des plus petits jusqu'aux plus grands, comment on les éduque à être autonomes. Le jour où j'y étais, ces enfants, les grands, étaient en train de monter, écoutez, une pièce qui est absolument incroyable, c'est-à-dire Dialogue des Carmélites. C'est quand même pas la première, c'est pas du Molière, hein. Molière, c'est un peu plus bon. Eh bien, ils avaient eu tout, ils avaient fait les démarches aux banques, ils avaient fait les costumes, ils avaient fait la mise en scène, ils avaient tout fait. Et là, justement, on voyait des enfants qui étaient capables d'aller trouver des banquiers, de leur dire, voilà, on veut être sponsorisé et tout. Et je crois que c'est ce qui manque dans notre éducation nationale, c'est que, comme vous disiez, on ne donne pas aux enfants la possibilité, on fait à leur place. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire.
Pour rebondir là-dessus, puis après je vous donne la parole, on a un petit chapitre dans notre livre sur l'éducation, et je crois que c'est vraiment au cœur du débat. Il y a déjà quelque chose qui... C'est pour ça qu'aujourd'hui on s'est mis en cercle, même si je parle plus que tout le monde. Il y a quelque chose qui est déjà terrifiant dans le système éducatif tel qu'il est, c'est que d'une part, ça pose la question des relations intergénérationnelles, c'est-à-dire qu'on vit dans des sociétés où on met les vieux, quand je dis les vieux, c'est pas mon point de vue, c'est comme ça qu'on les perçoit dans la société, dans des maisons de retraite, et on met les enfants dans les écoles. Et nous, on parlerait plutôt de l'école de la ville. Et je crois qu'il faudra avoir d'autres équilibres où l'enfant devra avoir beaucoup plus sa place dans la société, être beaucoup plus dans des modes d'enseignement interactif, d'équilibre. Ce qui ne veut pas dire que les anciens n'ont pas, ou des personnes qui ont travaillé sur un sujet, etc., n'ont pas des choses à partager de manière descendante quand il le faut avec les enfants, mais trouver d'autres équilibres. Et le système éducatif tel qu'il est aujourd'hui, il n'est surtout pas pour rendre les gens autonomes, il est là pour faire accepter aux gens d'une part qu'ils vont être classés, qu'il y aura des gens plus intelligents qu'eux, qui seront experts, qui pourront prendre des décisions à leur place, qui est une imposture, d'avoir des gens qui sont debout face à eux, qui leur diront comment il faut penser et comment il faut être, et non pas comment ils pourront être autonomes par rapport à ce qu'on leur dit, etc. Il y avait d'abord là-bas et puis...
Bonjour. Merci pour cette belle conférence qui est très intéressante avec, je dois reconnaître, beaucoup d'idées très généreuses. Je voudrais premièrement vous donner ma première impression. J'ai l'impression que l'intéressance, c'est un petit peu le recyclage, si vous voulez, d'idées qui existent déjà depuis une bonne quarantaine, cinquantaine d'années, qui sont passées de l'autogestion ensuite à... aux prémices de l'écologie, puis de l'écologie, et qui maintenant aujourd'hui se présente sous la forme de ce qu'on appelle la décroissance. Et je me suis dit que tu verras que dans 30 ans, il y aura un autre mouvement qui reprendra les mêmes idées générales et tout ça, et qui prendra le changement de la société. J'ai l'impression, c'est que les idées généreuses ne font pas évoluer nécessairement le monde. Et je trouve que la décroissance est un système de pensée qui est véritablement bien compatible avec le capitalisme, avec ce que vous appelez l'oligarchie. Parce que c'est une façon de faire de la politique qui est gentille, entre guillemets. C'est-à-dire que vous ne mettez en rien le système, enfin, ce que vous appelez le système, d'ailleurs je ne sais même pas ce que ça veut dire, l'oligarchie, vous ne mettez en rien, si vous voulez, les atomes de le système. Vous allez l'accompagner, vous allez être peut-être un petit groupe qui sur la frange va militer pour un petit peu plus de justice sociale, mais bon, dans l'ensemble, ce gros pas pour gros ne sera pas livré. Par contre, si on pensait un mouvement politique, à une action politique plus conséquente, ça serait de s'attaquer directement à la manière dont nous sommes nous-mêmes les contributeurs du système. Alors là, il y a à peu près trois leviers importants. Il y a la manière dont on paye des impôts, la manière dont on paye son énergie, et la manière dont on paye l'éducation de ses enfants. Ça, c'est vraiment trois gros totems qui sont vraiment très importants. Et le quatrième, c'est le travail. Parce que le travail est bien, à mon avis, bien plus important comme totem que la croissance. Parce que le travail aujourd'hui est véritablement devenu une idole. Je dis bien une idole, c'est-à-dire que les gens, si vous voulez, adorent cette idole. Se mettent à ses pieds et vraiment, font des rituels pour cette idole. La meilleure façon de le voir, c'est de poser la question à des parents d'élèves, de savoir. Comment ils sont vraiment très intéressés dans la réussite de leur enfant pour qu'ils aient un bon travail et qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Ils sont vraiment au top de la société. Donc c'est aussi notre façon, nous individuels, de participer, même si nous sommes des décroissants convaincus, à un système qui finalement nous arrange beaucoup. Alors, moi je lance cette idée-là, je ne sais pas si elle est juste ou pas, mais je pense évidemment que le parti politique de la décroissance qui nécessairement arrivera un jour ou l'autre, parce que vous êtes destiné à peut-être prendre un petit peu la suite de l'écologie qui s'est effondrée. En tout cas, les militants devraient se préoccuper de savoir où ils mettent l'argent de leurs impôts et l'argent de la République. Et peut-être là, il y a un levier qui vous permettrait quand même de devenir. Je vous fais une proposition. Tous les gens qui adhèrent à la décroissance consacrent une partie de leurs impôts en déclarant à leur compte affaire aux impôts. Voilà, je prends 33% de mes impôts que je devrais virer à la République française. Et comme je ne suis pas d'accord avec toutes les décisions, je me mets sur un compte spécial qui va être destiné à faire de la décroissance ou en tout cas de l'écologie. politique, quelque chose de concret avec des moyens musicaux. Je finis là-dessus.
Il y avait ici, puis après je prends le mot.
Je ne voulais pas parler de ça tout à l'heure, mais ça m'intéresse de revenir sur ce que tu viens de dire. Ce que tu viens de dire, c'est du même ordre de ce que tu viens de critiquer, à savoir c'est des jolies intentions. Est-ce que, je termine, est-ce que concrètement, aux impôts, tu as envoyé ton chèque en disant voilà, je donne que ça et pour 3% j'ai meilleur. Est-ce que tu l'as fait?
C'est une proposition, je
non, mais c'est... voilà, donc, le jour où tu vas le faire, tu vas visser ton marché, ils vont dire, oh, il manque temps, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire un chèque ou tu vas dire, allez, viens voir et ils te mettent en taule?
Ben, de toute façon, ce que j'ai déjà fait et qui est déjà mieux, et que peut-être que toi, je te demande ce que tu vas faire, je me suis rendu insolvable, je ne paye plus les
impôts. Ah, bon, on a besoin de tes impôts. Hein.
Mais c'est juste là, parce que si tu veux, on parle au niveau général, c'est vachement facile, si tu veux, c'est un niveau individuel de trouver une faille.
Continuons pour la discussion ensemble après.
Je pense, pour revenir à ce que tu disais, ce qui est important, c'est que ça passe effectivement par le politique, mais pas par les partis politiques, par le politique au sens réel, c'est-à-dire de la cité, c'est-à-dire tout à chacun. Et pour ça, ça passe par une chose, à mon avis, qui est fondamentale. On en a parlé déjà l'autre soir. Il y a quelqu'un qui en parle beaucoup depuis plusieurs années, qui est le choix. C'est le fait d'écrire, je ne dis bien pas de réécrire, mais d'écrire une constitution démocratique. Parce que les constitutions démocratiques, ça n'existe pas dans le monde, quel qu'il soit, quel que soit le pays, la démocratie n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc déjà, la première chose, c'est de faire une constitution démocratique. Démos, c'est le peuple. C'est le pouvoir du peuple, nous, et pas d'une oligarchie, c'est-à-dire d'une minorité qui accapare le pouvoir à son propre...
Bénéfice. Pour moi, c'est déjà une façon idéologique de présenter la réalité. Je n'ai rien.
Parlez pas ensemble, on est un peu plus nombreux que deux. Voilà, parlez pas ensemble, mais merci pour l'intervention. Vas-y.
Je vous remercie pour la concision et le côté synthétique de votre débat. Je voudrais juste dire que j'ai été frappée par, au départ, vous avez dit attention aux catastrophes. On parle beaucoup de sociétés grandes et jeunes. Mais au fur et à mesure, je me suis sentie de plus en plus angoissée d'un côté, personnellement moi, quand vous avez parlé de ce qui se passait dans la société, jusqu'au barbarie. Et en même temps, il y a un autre côté qui est lassé d'entendre ce constat. Donc, je souhaiterais savoir comment, quels moyens de. D'avoir une sorte de témoignage une autre fois sur la manière de justement d'arriver au revenu de base inconditionnel de façon non autoritaire. Je ne vois pas comment on peut y arriver. Et il y a quelque chose qui me. Mais je suis prête, enfin, j'ai envie de voir comment ça m'intéresse, plus que d'entendre le mot. Et le pouvoir du peuple, ben, ça grince aussi dans mon oreille. Ça me rappelle aussi d'autres discours très anciens. De même, pour les impôts, il faut bien quelque part, qui va obliger à autant 30% d'impôts la responsabilité, alors ça, si vous discutez avec des ados et des adultes, chacun a une conception, enfin, beaucoup ont des conceptions différentes de la responsabilité. Et le mot décroissance, effectivement, bon, je ne me rappelle plus quelle conférence vous avez à la nationale, mais ils ont dit que ça n'avait aucun sens, le mot décroissance. Mais vous, j'ai compris, c'est plus un mot valise pour moi, parce que vous l'avez défini. Donc je pense que ce qui est très important, de façon magique, c'est effectivement, quand on parle à deux personnes, qu'est-ce qu'on entend par ? Qu'est-ce qu'on entend ? Ce que vous avez fait là, donc là, c'est un bon exemple. Maintenant, le revenu de base inconditionnel, ça nous questionne. Et puis,
Je vais répondre.
Je ne vois pas à quoi ça sert de descendre de 400 euros à 500, etc. Parce que ça, c'est monolithique. Ça fait qu'il n'y a pas qui est puni. Et vous prenez des solutions multiples. Donc peut-être que 500 euros dans un pays, ça ne va pas dans un autre pays, etc. Donc tout ça, je souhaiterais qu'il puisse y avoir des prolongations de discussion.
Juste. Je fais juste un petit commentaire et après on continue. C'est pour répondre un peu aux trois interventions qu'il y a eu là. La première des choses, les exemples que j'ai présentés, j'ai bien dit à plusieurs reprises que c'était juste un exemple pour s'ouvrir l'esprit. Et de la même manière, j'ai dit à plusieurs reprises qu'il nous semble important dans la décroissance, c'est de respecter la diversité des approches en fonction des contextes, etc. Et de la même manière, toutes les idées sont bonnes. Et il n'y a pas une, je crois, s'il y avait une recette magique pour sortir de l'impasse dans laquelle on est, on la connaîtrait déjà, elle serait déjà appliquée. Mais il n'y a pas de recette magique.
Vous avez terminé votre exposé en disant « les solutions sont là ». Moi, je suis très choqué par ça. Si vous dites au départ « je suis pour le débat », vous proposez trois solutions,
Je parlais...
les solutions sont là ».
Je ne parlais pas de mes solutions, je parlais de manière générale sur tout ce que je peux observer à travers le monde.
Les solutions sont là.
Je ne parlais pas de moi en disant ou de notre bouquin, je parlais bien de ce que je peux observer, je parlais des dynamiques sociétales que l'on peut observer. Et pour répondre aussi à ce que je voulais dire, sur, je crois qu'il y a plusieurs choses à faire, et je vais parler de mon expérience personnelle, non pas comme exemple à suivre pour toutes et tous, mais il y a la possibilité de faire des choses aujourd'hui. Et moi, par exemple, j'ai eu la chance, la possibilité d'arrêter de travailler, de me réapproprier mes activités, et de faire un maximum de choses à l'extérieur de l'argent, et de créer une dynamique où je vis à Budapest aujourd'hui sans pratiquement dépenser d'argent, puisque la plupart des choses que je consomme, la nourriture, le logement, etc., je l'ai à travers des activités de réciprocité. Je file un coup de main à la ferme, je récupère un panier bio. Dans notre appartement, on organise des événements culturels, on organise des... C'est un espace ouvert pour du débat, pour des ateliers d'auto-apprentissage, etc. Ça nous permet de payer notre loyer. Donc on passe du temps plutôt que de travailler, alors que j'ai connu avant l'ancien système où je bossais, j'avais un salaire, etc. Et une fois de plus, ce n'est pas l'exemple unique pour toutes et tous. Mais quand je dis les solutions sont là, c'est quand on observe partout dans la société, il se passe énormément de choses qui sont extrêmement intéressantes. Et il n'y en a aucune qui est applicable, clé en main, de la même manière partout à travers le monde, etc. Mais toutes, je crois, sont source d'idées, sont source d'ouverture d'esprit, etc. Et monsieur derrière, et puis après, il y avait une autre personne.
Oui, je crois que ça serait important de revenir sur le pessimisme que vous avez, c'est-à-dire, ça apparaît quand même un combat de David contre Goliath, qui est à long terme, c'est-à-dire que quand on voit les pays émergents aujourd'hui, qui adoptent les mécanismes du capitalisme en France en exploitant le peuple comme la Chine, l'Inde, le Brésil, etc., qui adoptent même avec une oligarchie financière et politique et militaire, enfin, c'est vrai que ça fait peur. Et quand on voit les États-Unis, le Canada qui font sur le gaz de schiste et tout, c'est vrai que ça apparaît, on est un peu impuissant. Donc, il faut prendre conscience de ça. Et on est un peu angoissé. Et d'autre part, est-ce que tu pourrais développer toute cette recherche qui se fait aujourd'hui sur des réseaux à la fois citoyens à base de valeurs humanistes, mais aussi interspirituels, pas religieux spécialement, mais interspirituels, à partir des valeurs humanistes spirituelles et des valeurs... après de religion ou autre chose, mais qui reconnaissent un sens à sa vie à partir de l'esprit de vie et de l'esprit qui nous traverse tous, qui traverse le monde aujourd'hui, qui sont forts. Bon, je connais une association qui s'appelle Démocratie Spiritualité avec Jean-Baptiste de Foucault, il y a Patrick Bougret, donc il a fait allusion sur la frugalité. Pierre Rabhi avec les colibris, etc. C'est vrai qu'il y a des sources, des ressorts aujourd'hui de reprise en main pour vivre mieux, etc. En sachant que certaines religions peuvent être considérées comme une recherche de bien-être individuel et s'évader du combat social concret au niveau de cette exploitation du père de la minorité milliardaire et le peuple qui traite de faim de son Afrique voyelle. Donc, est-ce que tu peux développer aussi toutes ces expériences qui apportent des ressorts et des sources d'espoir?
On continue à prendre plusieurs paroles et puis après, j'essaie de faire une réponse globale. Allez-y, vous allez
en écoutant cette conférence que j'ai particulièrement adorée, j'ai pensé à une phrase, à une pensée de Jacques Attali, qui lui a plutôt été, est plutôt un monsieur de la croissance, qui n'est pas encore inscrit.
Voilà. Jacques Attali a fait de l'effet.
C'est un exemple d'obsolescence programmée. Et donc Jacques Attali nous a expliqué dernièrement lors d'un rapport qu'il a proposé à nos dirigeants qu'il y avait une possibilité de que chacun puisse enfin vivre heureux. Cette solution, je parlais de solution, cette solution, c'était que chacun puisse exercer le métier pour quoi il est fait. On a tous un don, on a tous une envie. Se lever le matin en étant heureux de travailler, mais pas en cherchant combien je vais gagner pour faire ce travail, juste en se disant que je suis heureux d'aller travailler pour gagner juste ce qu'on va me donner, cet emploi. Cet emploi qui me rend heureux. Et pour ce faire, comme effectivement tout le monde n'est pas égal, il faut une solidarité autour de cela. Cette solidarité s'exercerait, alors selon Attali, ça pourrait être par exemple en utilisant des fonds. C'est très pragmatique à ce jour d'aujourd'hui, des fonds qui au jour d'aujourd'hui sont très mal utilisés, comme les fonds de la formation continue, etc. Pouvoir les utiliser, les distribuer, hein, pour que chacun puisse enfin vivre sa vie, ce qu'il est. Donc ça demande effectivement, il rejoint la décroissance, parce que ça rejoint l'humanité, la solidarité, et ça part de spiritualité qui est à mettre en œuvre.
Voilà. Il y avait quelqu'un derrière la coule. Non, c'est ça, vas-y.
Oui, donc, je voulais revenir essentiellement sur la notion de travail de revenu. Et quelques petites réflexions successives. Donc, je suis en train de lire péniblement le livre de Thomas Piketty, hein, le 21e siècle, juste pour dire, je ne vais pas vous faire un résumé de bouquin, juste pour vous dire que dans le chapitre que je suis occupé de lire, il rappelle que dans les pays anglo-saxons, donc États-Unis et Angleterre, existait un taux d'imposition confiscatoire, comme il l'appelle, c'est-à-dire que le taux marginal le plus élevé, sur les tranches de revenus les plus élevées, allait jusqu'à 80%. Donc pas sur l'ensemble des revenus, hein, juste le taux marginal dans un système de taux progressif d'imposition. Par rapport aux pays européens qui, eux, avaient résolu ce problème, avaient approché ce problème de du rapport entre le salaire le plus bas et le plus élevé, par l'intervention du pouvoir public dans l'économie directement en étant actionnaire de Renault, du chemin de fer, de la poste, etc., dans lesquels, évidemment, il s'agissait de barèmes et non pas de revenus comme ça, de salaire inventé. Deux, il serait intéressant, mais peut-être l'avez-vous fait, de voir où se situerait, il pourrait se situer cette fameuse fourchette du rapport de salaire entre le plus bas et le plus élevé si on parle d'un rapport de 1 à 4. Parce que tu as cité l'exemple d'un revenu minimal de 1, de 1 000 euros, en disant bien que c'est un exemple, Et donc, évidemment, 4 fois plus, c'est 4 000 euros. Or, si on rentre dans un système comme celui-là, à prix de vente équivalent, à chiffre d'affaires équivalent, et en tout cas à profit équivalent, l'économie faite sur les salaires les plus élevés, top manager, manager intermédiaire également, cette économie permettrait de relever aussi sensiblement le revenu le plus faible. Et donc l'individu qui aujourd'hui, dans un système tel qu'il est proposé là, aurait peur de perdre du salaire, de passer de 6 000 euros à 4 000, passera éventuellement dans cette tranche-là, la tranche du milieu, passera peut-être soit au même salaire, soit peut-être à un salaire légèrement supérieur. On pourrait très bien imaginer que la fourchette, en faisant le calcul sur le 440, le recrutement de papier, le
440,
on pourrait peut-être se rendre compte que la fourchette s'établirait entre 2500 et 10 000. 10 000, c'est quand même déjà pas mal. Ou entre 4 000 et 16 000. Donc voilà, j'arrête là-dessus. Alors, ensuite, moi je suis très très étonné que quand en France, on semble-t-il qu'en Belgique, moi je parlerai de la Belgique, on ne parle plus du partage du temps de travail, une sorte de censure aussi de la part des syndicats par rapport à cette question, alors que, en Belgique en tout cas, on n'arrête pas, pour l'instant, de faire du partage du temps de travail. Le partage du temps de travail, ce n'est pas nécessairement de couper la tarte en morceaux plus petits, ça peut aussi consister à couper la tarte en morceaux plus grands. Et pour l'instant, c'est ce qu'on fait. Quand on allonge la carrière professionnelle, toutes autres choses étant égales, ben, on concentre la durée du temps de travail entre ceux qui ont du travail au détriment de ceux qui n'en ont pas, parce que quand on nous dit, hein, une politique, oui, mais ça va créer de l'emploi, à voir, et si ça en crée, ce sera de toute façon à la marge. Donc, on prend le travail des jeunes pour le confier à ceux qui sont déjà dans le marché de l'emploi et qui ont déjà bien la chance de devoir travailler pendant 40 ans plutôt que de devoir travailler encore pendant 42 ans. Ça ne veut pas dire que le problème de la pension est résolu. Mais de la même manière, il y a toute une série d'autres mécanismes en route pour l'instant qui vont dans le sens d'une concentration du temps de travail entre les mains de ceux qui en ont. Juste un deuxième exemple, en Belgique en tout cas, il y avait des limitations de travail qu'on pouvait encore avoir, de revenus qu'on pouvait encore avoir au-delà de l'âge de la pension. Pour des gens, soit qui n'avaient une pension insuffisante, mais soit aussi pour des gens qui ne voulaient pas décrocher ou augmenter leur revenu par rapport à la pension de retraite. Ces plafonds ont sauté chez nous. Mais ça veut dire qu'une perçoit, disons, prenons le cas d'une personne qui perçoit sa pension complète, il la perçoit. Il la touche, il la reçoit, en plus du revenu qu'il peut avoir sans limitation. Imaginez un peu ce que ça veut dire. Le revenu de pension, j'en termine. Hein. Le revenu de pension, c'est quoi? C'est un revenu compensatoire, c'est un revenu de substitution tout autant que l'allocation de chômage. Donc ce qu'on est en train de faire par rapport aux pensions revient exactement à la même chose que de permettre aux chômeurs de garder sa pension, son allocation de chômage, pardon, en plus d'un revenu complémentaire, d'un revenu de travail, c'est-à-dire l'allocation universelle. Donc il y a pas là une disparité de régime, mais qui va une fois de plus dans le sens d'une concentration du travail entre les mains de ceux qui en ont ou qui n'en ont plus.
Il y avait une dernière,
moi. Moi, j'avais une question assez concrète et la curiosité. Comme vous prenez la parole nationale du Parti de la Défense, est-ce que c'est le porte-parole national en France? Et le Parti pour la décroissance, est-ce que c'est comme une association, je veux dire, ou est-ce que c'est un vrai parti qui est à l'égal de Parti Socialiste ou de d'autres? Et j'ai pas fini, j'ai fait ces dernières élections et je me suis demandé hier s'il y avait un candidat qui s'est présenté aux dernières élections en France. Et ce matin, il est revenu que la ministre avait dit qu'il y avait un homme qui s'était présenté et que pour les raisons stratégiques, il avait décidé de se retirer. Enfin, il avait décidé, voilà, au sein du parti, de se retirer. Donc, je voulais savoir si mes souvenirs étaient justes et puis voilà.
Je prends encore quelques commentaires et puis après, je ferai un mot de conclusion en essayant de répondre à la plupart des questions.
Merci pour me donner la parole. Je vais prendre une minute ou deux.
Je n'ai pas l'habitude déjà de parler en public, donc je ne suis pas très à l'aise. J'ai dit beaucoup de choses, j'ai entendu beaucoup de théories. Je ne suis pas trop dans le monde associatif ni dans le monde du marxisme, mais j'ai habité à l'étranger, Asie, Afrique, Amérique du Sud. Et ce que j'ai retenu de ce que tu as dit, pour moi, c'est il n'y a plus le temps, c'est trop tard. Et je suis tout à fait dans cette sensibilité-là. Parce que j'ai l'impression qu'en France et en Europe, on a encore cette illusion d'être moteur de ce qui se passe dans le monde. Et quand on va habiter à l'étranger, on s'aperçoit que c'est plus du tout ça. Quand on prend l'Inde et la Chine, on est à 40% de la population mondiale sur un territoire qui est quand même relativement petit. Et là, vous avez réellement ce qui va être la puissance et la force de destruction du monde dans lequel nous allons rentrer dans les 50 ans et 100 ans à venir. Donc tout ce qui est dit là, oui, sans problème, je suis tout à fait d'accord. Mais alors c'est d'une minorité, d'une minorité, d'une minorité qui, à mon avis, n'a pas énergétiquement la puissance nécessaire de croître et d'être entendu, et en plus d'être entendu parce qu'elle n'a pas la possibilité d'être se répercuter dans ces systèmes-là, dans ces manières de voir, dans ces lieux du monde où tout ce qu'on vit là, je pense qu'il ne comprendrait pas 10% de ce qui est là. Donc voilà, c'est une vision assez globale, je pense tout à fait pessimiste d'un côté. En même temps, je dirais très réaliste. Et puis pour remonter encore à un autre niveau, qui est là plus un niveau spirituel, de toute manière, tout ce qui est manifesté, donc là on est sur une vision avec italienne, tout ce qui est manifesté rentre dans le processus de l'art du temps, et création, préservation, destruction. Qu'on soit dans l'univers dans lequel on se trouve, qu'on soit sur la planète Terre, ou peut-être qu'on soit la présence de l'humain sur Terre. Et pourquoi pas imaginer que, là je pense qu'on arrive à apparemment 150 000 ans de présence moderne sur la planète Terre, certains disent qu'il y a d'autres civilisations avant, et je ne les nomme pas, Atlantique par exemple, mais 150 000 ans sont les premiers vestiges d'Afrique, au niveau d'Éthiopie. Pourquoi ne serions-nous pas au début de la fin de la présence humanoïde sur Terre, vu tout ce qui est en train de se mettre en place? Voilà, c'est des choses que l'on voit comme ça. Ça n'a rien d'optimiste en soi, mais en même temps, peut-être très réaliste si on se place à un autre niveau de perception des choses et du temps. La Terre a 3600 milliards d'années, la présence humaine 150 000 ans. Individuellement, si on arrive à 100 ans, c'est déjà énorme. Notre société actuelle, on va dire à peu près 2000 ans, je suis très pessimiste sur les 100, 150 ans à venir, beaucoup moins pessimiste sur les 5000 ans à venir, et puis totalement optimiste sur les
5000 ans. Merci. 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 Merci.
Je voyais en chercher des besoins aussi, et on n'a pas d'expérimentation. On apprend, on parle aussi souvent de living, je ne sais pas si ça va tout le monde, mais on parle de living labs, on parle de le mot lab, et labs, on le retrouve assez souvent dans la société. On parlait tout à l'heure des colibris, ils veulent mettre en place des oasis, etc. Du coup, c'est à la fois une question et une suggestion. Est-ce qu'il y a des expérimentations concrètes qui sont en place pour tester? Vous avez mentionné des outils. Une micro-société, une ville, un certain nombre de personnes tester ce que vous avez nommé, dans une minimum, dans un maximum, peut-être aider, on parlait tout à l'heure un peu de promotion participative, aider peut-être avec d'autres, et que l'on se donne du temps pour voir ce que ça donne, quels sont les résultats, et du coup, est-ce que ça donne envie et la possibilité de le multiplier à d'autres endroits. Donc, ça, c'est le côté expérimentation. Sur le côté, ce qui est des notions qui existent déjà, en venant, je me suis arrêtée à la gare et j'ai acheté le hors-série de Terra Eco, qui recense 120 exemples de nouveaux services, de nouvelles sociétés, entreprises qui ont été créées autour de la consommation collaborative, consommation circulaire. Il y a des choses qui font du travail, de l'éducation, enfin, justement, c'est vraiment exactement là-dedans. Donc, il y a au moins 120 exemples qui sont cités là-dedans. Donc, est-ce que ça ne peut pas, je ne sais pas si c'est agiste ou est-ce que c'est prévu, est-ce qu'il pourrait avoir une espèce d'observatoire de ce qui existe? Peut-être que parmi nous, voilà, on pourrait être tenté d'essayer de financer quelque chose, mais si on ne sait pas ce qui existe, on ne peut pas participer forcément à ces choses-là. Là, il citait par exemple des systèmes où justement on peut mettre notre argent et des intérêts peuvent servir à des choses qui sont notre. Donc là, ce n'est pas l'intérêt de la banque du crédit enfin, qui va servir à des personnes, mais là, on choisit à quoi ça sert, les projets sociaux, environnementaux. Avec un exemple comme ça, je pense qu'en les lisant, il y a plusieurs qui peuvent nous intéresser chacun. Donc savoir ce qui existe, à quoi on peut contribuer et quels sont les effets de ce qui est expérimenté, je pense que ça permet d'y multiplier.
Alors moi, je me demandais ce qui arrivait aux gens qui réellement luttaient contre l'Empire, comme dirait Alain Soral. C'est-à-dire que là, il y a deux, trois uluberlus peut-être qui font partie du parti des croissances, des trucs qui rendent service en quelque sorte à l'Empire, à la mesure où ça nous donne une illusion de liberté, de choix dans les élections. Comme disait Coluche, les élections, si ça servait à quelque chose, ça fait longtemps qu'on nous les aurait enlevées. Et il y a eu des, par exemple, Kadhafi en Libye, chaque Libyen disposait de 2000 euros par an, enfin l'équivalent de 2000 euros par mois, même s'il ne travaillait pas. Kadhafi a voulu se libérer du dollar, qui est une monnaie de singe, qui n'est pas coutille, qui n'en pose sur rien, en créant une monnaie africaine pour toute l'Afrique, avec un équivalent d'un étalon or, basé sur l'or, quelque chose de concret. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Voilà. D'autres personnes comme Alain Soral, comme Dieudonné, j'en passe, qu'est-ce qui leur arrive?
Je suis
juste pour
répondre, il y a un grand mouvement à qui regroupe toutes les mouvements d'alternatives locales dans toutes les villes de France. Et donc, c'est une œuvre politique, c'est que moi, je suis normand.
Troisième.
C'est pas les
protégés. On termine juste et.
Voilà ce qu'il y a.
C'est un bel exemple de répondre à ta question. C'est des choses concrètes qui se passent dans un sens.
Comment
ça
s'appelle?
Je vais faire une conclusion globale. Et pour les réponses directes aux questions, on pourra le faire en direct après. Avant de faire la conclusion globale, juste, je vous invite, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, il y a notre ouvrage qui est en vente ici à 7 euros. On passe par une logique associative puisque l'argent rentre directement dans une association qui finance des alternatives concrètes. Donc, je vais faire une réponse globale sur le fait que quand j'écoute un peu l'ensemble de questions, de propositions, de réflexions qu'il y a pu y avoir, ça va dans le sens de ce que j'évoquais tout à l'heure sur les solutions. C'est-à-dire qu'on voit qu'il n'y a pas une solution, il y a plein de choses qui se passent. Et il y a quelque chose qui est assez remarquable, c'est qu'il y a 10 ans, je commençais à m'intéresser à la décroissance, j'aurais pas été capable de donner le millième d'exemples sur ce qui se passe, de ce que j'ai pu entendre aujourd'hui, de ce que j'ai pu proposer comme exemple concret de ce qu'il y avait, que ce soit les alternatives, que ce soit le recul qu'on peut avoir sur un certain nombre de choses, un certain nombre de critiques, etc. Et ce que nous, on essaye de faire avec les Uluberlus, comme tu disais, autour de la décroissance, c'est avec humilité, à notre échelle, tout en étant réaliste, mais en essayant de garder l'espoir, parce qu'on vit ici, quoi, on ne l'a pas choisi, on serait peut-être mieux dans les 50 000 années à venir, mais on est ici, on arrive à une période de l'histoire où je crois qu'on est dans une bifurcation, l'effondrement d'une civilisation et une civilisation mondialisée. Et ce qu'on essaye de faire, c'est que face à ces barbaries, face à cet effondrement qui nous amène vers toujours plus de barbarie, de violence, etc., et qui a déjà commencé, qui est déjà bien présent, ce qu'on essaye de faire avec humilité, sans se rendre malade ni dépressif, etc., ce qu'on essaye de faire, c'est de semer des graines. C'est de partager ces graines. Et d'espérer que bah, quand des conditions sont présentes, et pour répondre aussi, bah, on est dans les combats pour que les conditions soient présentes. Moi, j'ai participé à des élections, je suis en relation avec différents partis politiques, j'ai fait plein d'actions de désobéissance civile. On est dans les combats, et puis on est aussi dans le faire. Et puis, par rapport à cet effondrement qui est en train de d'arriver autour de nous, bah, on espère que ces graines elles pourront éclore. Quand, comment, personne n'est capable de le dire. L'histoire n'est ni linéaire, ni prévisible. Déjà, si il y a 5 ans, on m'avait dit qu'il allait avoir tout ça qui allait arriver, si il y a 5 ans, on m'avait dit que je me retrouverais dans de tels projets autour de coopératives, autour du faire, tel que je le vis aujourd'hui, je n'aurais jamais cru. Et par tout ce que je peux observer à travers le monde, ça reste archi minoritaire, on est entièrement d'accord. Pour répondre aussi à ce que tu disais, c'est que toutes les personnes chinoises avec lesquelles j'ai discuté de décroissance, j'avais l'impression qu'elles avaient déjà beaucoup plus percuté sur beaucoup de choses que beaucoup d'Occidentaux. Donc je pense que les choses ne sont pas... C'est jamais tout blanc ou tout noir. Et je crois qu'il y a les deux en parallèle. Et l'enjeu, c'est à notre échelle, chacun, chacune, sur différents niveaux, c'est d'essayer de semer le maximum de graines pour minimiser les violences qui sont encore associées. Donc je vous remercie et on peut continuer.
Merci à vous tous d'avoir participé.